VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 30 décembre 2020. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. L'opposition centrafricaine demande l'annulation des élections du 27 décembre. En Ouganda, la police dément avoir arrêté Bobi Wine, ce dernier principal adversaire de Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier, est accusé d'avoir violé les règles sanitaires relatives au Covid-19. Le Covid-19 qui continue de faire des victimes, plus de 3000 morts en 24 heures ici aux États-Unis. Nous ferons le point de la pandémie dans le monde dans ce journal. Au Tchad, le député Salé Kebzabo, président de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, est dans le collimateur de la justice. Il est accusé d'avoir tenu des propos incendiaires au sujet du regain des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Au moins deux explosions, des morts et des dizaines de blessés. C'est la scène macabre observée ce mercredi à l'aéroport d'Athènes au Yémen. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En République centrafricaine, la coalition de l'opposition demande l'annulation des élections présidentielles et législatives du 27 décembre dernier, estimant que celles-ci ne reflètent pas la volonté populaire. Les opposants avaient réclamé le report du scrutin sans succès. Les précisions de Michel Joseph.
La coalition de l'opposition démocratique, la COD 2020, qui regroupe les principaux partis politiques et mouvements de l'opposition, dénonce des bourrages des urnes et un nombre de votants qui dépasse celui des inscrits dans certains bureaux de vote. La coalition relève par ailleurs l'absence des observateurs nationaux et internationaux dans l'arrière-pays et des dépouillements des résultats qui n'ont pas été faits aussitôt à la fin des votes. Pour la COD 2020, les élections de dimanche n'ont pas été justes et inclusives et ne sont nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Des milliers de centrafricains ont été empêchés de voter ou d'entrer en possession de leur carte d'électeur. Une situation reconnue lundi par le ministre centrafricain de l'administration territoriale, Momo Kaoma Théophile, rapporteur général de l'autorité nationale des élections. Sur 71 préfectures, 29 n'avaient pas voté et dans 6 autres, le vote a été partiel, avait-il expliqué. Malgré ces problèmes, le scrutin de dimanche est salué comme crédible et légitime par le gouvernement et la communauté internationale. La mission onusienne en RCA parle d'un scrutin historique.
Le candidat de l'opposition au Ghana, John Dramani Mahama, a déposé vendredi une plainte devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée au début du mois par le président sortant Nana Akufo-Addo. Dans cette demande déposée par M. Mahama, le chef de l'opposition affirme que l'élection présidentielle a été entachée par des fraudes et que son résultat doit être annulé. Le plaignant demande à la justice qu'une ordonnance enjoigne la commission électorale a procédé à une deuxième élection car ses résultats sont inconstitutionnels, nuls et non avenus. Au Mali, le célèbre joueur de Kora, Sidiki Diabaté, en détention à Bamako depuis 3 mois pour les faits présumés de coups et séquestration sur son ex-compagne, a été libéré après le paiement d'une caution de 15 millions de francs CFA, ont indiqué son manager et une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Artiste de renommée internationale, Sidiki Diabaté était en détention provisoire depuis le 21 septembre. En Ouganda, la police ougandaise nie avoir arrêté le populaire chanteur Bobi Wine, principal adversaire déclaré du sortant Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier. Elle annonce plutôt avoir empêché l'opposant de rassembler ses partisans, invoquant les règles sanitaires relatives au Covid-19. On fait le point avec Eddie Sango.
La police ougandaise met en garde contre ce qu'elle qualifie de fausses informations faisant état de l'arrestation de Robert Kyagulanyi, dont Bobi Wine est le nom d'artiste. Elle précise toutefois que le candidat opposant est actuellement transféré vers son domicile de Kampala à 100 kilomètres de là. Cela après avoir été empêché de continuer à organiser des rassemblements de masse sur fond de menaces accrues du coronavirus et du mépris total des directives sanitaires militaire. Plusieurs membres de son équipe ont été, eux, arrêtés après avoir été filmés dégonflant le pneu des véhicules des polices, incitant à la violence, bloquant des policiers au service, violant les protocoles sanitaires et commettant plusieurs infractions routières, selon la police. La campagne électorale se déroule dans un climat de violence et de répression. Monsieur Wine a été arrêté à plusieurs reprises. Une énième arrestation mi-novembre a déclenché des violents affrontements entre ses partisans et la police, faisant au moins 54 morts selon les autorités ougandaises. L'avocat de Monsieur Wine a récemment été remis en liberté sous caution après avoir été arrêté et inculpé des blanchiments d'argent, des poursuites largement qualifiées de politiques.
Le président zambien Edgar Lungu a demandé à la police d'accélérer l'enquête sur la mort de deux manifestants d'opposition le 23 décembre dernier à Lusaka. Il a aussi limogé deux responsables de la police et opéré des changements dans le commandement de cette institution pour permettre une enquête rapide.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Guinée procède à ses premières vaccinations contre le COVID-19 selon le site mediaguinée.org. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale, le docteur Mohamed Diané, a été vacciné contre le COVID-19 en présence des caméras. Il a reçu la première dose du vaccin russe Sputnik V contre le coronavirus au palais Sékou Touré. En tant que généticien, je fais entièrement confiance au progrès de la recherche et de la science. Nous vaincrons la pandémie tous ensemble, a écrit le ministre sur sa page Facebook. Un parlementaire de Louisiane décédé hier du COVID-19 à l'âge de 41 ans est devenu le premier membre du Congrès américain à succomber à la maladie aux États-Unis. Le point dans le monde avec Yakuba Ouédraogo.
Le républicain Luc Letlow avait été élu dans le 5e district de la Louisiane et devait prêter serment dimanche. Le gouverneur de cet État du Sud, John Bell Edward, a ordonné que les drapeaux soient mis en berne le jour des funérailles de M. Letlow, qui laisse en deuil son épouse et leurs deux enfants. Le parlementaire avait été contrôlé positif le 18 décembre et hospitalisé 3 jours plus tard. Lundi, les États-Unis enregistraient 19,5 millions de cas et près de 338 000 décès. En 24 heures, plus de 3 000 morts de plus ont été recensés. Ailleurs, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver le vaccin anti-Covid développé par le groupe AstraZeneca avec l'Université d'Oxford. Le vaccin sera utilisé dès le 4 janvier au Royaume-Uni. L'Allemagne a enregistré aujourd'hui plus de 1120 décès en 24 heures, un record. En Chine, le nombre de personnes contaminées à Wuhan, berceau de la pandémie, serait 10 fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Ce centre parle de 480 000 personnes contaminées au lieu des 50 000 communiquées par les autorités.
Au Yémen, plusieurs explosions ont fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés mercredi à l'aéroport d'Aden lorsqu'un avion transportant le nouveau gouvernement d'union est arrivé sur place. Le point avec Abdourahmane Dia.
Au moins 2 explosions se sont produites lorsque l'avion a atterri et que les responsables ont commencé à sortir de l'appareil. Des bruits d'explosion et de coups de feu ont retenti avant qu'une épaisse fumée noire ne jaillisse d'un bâtiment de l'aéroport, tandis que des débris étaient projetés aux alentours, suscitant la panique parmi les personnes présentes, selon les images diffusées par la chaîne de télévision saoudienne Al Hadas. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ben Moubarak, tente de rassurer. « Nous allons bien », a-t-il tweeté. Le ministre de l'Information, Muammar al-Iriani, a accusé les rebelles houthis d'avoir mené cette attaque qu'il qualifie de terroriste. Le nouveau gouvernement d'union, rassemblant des ministres pro-pouvoir et des séparatistes du Sud, a été formé le 18 décembre sous l'égide de l'Arabie Saoudite. Ces deux camps se disputaient le pouvoir dans le Sud. Ils restent en principe alliés depuis 6 ans contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran et qui se sont emparés d'une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa.
Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, a décidé de repousser le vote sur l'augmentation du montant de l'aide qui sera versée aux particuliers en dépit des appels du président Donald Trump qui a prié les sénateurs d'agir au plus vite. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a voté lundi en faveur d'une aide directe aux particuliers revue à la hausse à 2 000 $, comme le demandait le président républicain Donald Trump dans le cadre du plan de relance approuvé la semaine dernière par le Congrès. Le président élu Joe Biden a nommé mercredi Kathleen Hicks ministre adjointe à la Défense, ce qui ferait d'elle la première femme à occuper le poste de numéro 2 du Pentagone si le Sénat confirme ce choix. Madame Hicks, qui est en charge de l'équipe de transition de Monsieur Biden au Pentagone, a déjà travaillé au ministère américain de la Défense sous l'administration Obama. Le futur président a aussi nommé Colin Kahl, autre ancien de l'administration Obama, au poste clé de sous-secrétaire aux politiques de défense. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Michel Joseph.
Vive réaction des brasseurs sud-africains à la suite de la mesure gouvernementale interdisant la vente d'alcool jusqu'au 15 janvier, au moins dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. South Africa Breweries, la principale entreprise du secteur, accuse le gouvernement de criminaliser l'industrie brassicole et de se livrer à la discrimination contre ses travailleurs et leurs familles. La mesure d'interdiction a été prise avec peu de consultations, se plaint la compagnie qui rappelle qu'elle supporte plus d'un million de personnes par ses activités. Avec la fin, le 31 décembre, de la période de transition entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'Afrique sera à l'afflux de nouvelles opportunités qu'apportera le Brexit. Selon les experts, on pourrait assister à une augmentation de l'immigration des pays non européens vers le Royaume-Uni, ce qui pourrait se traduire au plan économique par une augmentation des transferts de fonds vers les pays d'origine. Toutefois, certaines recherches montrent que le système de sélection d'immigrants basée sur des points tend à plutôt favoriser les ressortissants des pays développés.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Pamphile Miayo a repris les commandes du club congolais du tout-puissant Mazembe. Il remplace le Serbe Svekovic, qui l'avait succédé après sa rétrogradation au poste d'entraîneur adjoint en mars dernier pour manque de résultats en Ligue des Champions. La direction du tout-puissant Mazembe annonce que le contrat du coach Dragan Svekovic, arrivant à échéance ce 31 décembre 2020, ne sera pas prolongé. Conformément au processus de décision du club, le comité sportif réuni a décidé la nomination de Pamphile Miayo Kazembe de retour d'un stage de formation à Liège au poste d'entraîneur principal. Il sera secondé par Isaac Kassongo comme entraîneur adjoint, luttant sur le site web du TP Mazembe. Parlant justement du club congolais, 9 joueurs du club louchois ont été présélectionnés par le coach Florent Ibengué, sélectionneur de l'équipe A' de la République démocratique du Congo pour le CHAN 2020. Hier, le tout-puissant Mazembe a annoncé Gode Masengo, Joss Isama, Hassen Zola, Miche Mika, Gondry Soudi, Joël Beya, Philippe Kinzumbi, Étienne Mayombo et Chico Ushindi, gardien titulaire lors du dernier sacre des Léopards A' dans la compétition en 2016. Le gardien Lei Matampi a lui aussi été présélectionné, a annoncé son club du FC Lupopo. Au CHAN, la République démocratique du Congo affrontera le Congo, le Niger et la Libye dans le groupe B. En Angleterre, le derby londonien entre Tottenham et Fulham, prévu ce soir pour la 16e journée de Premier League, a été reporté sine die à moins de 3 heures du coup d'envoi. La Premier League a pris cette décision après une demande de Fulham qui a déploré une hausse significative de cas positifs au Covid-19 ainsi qu'un certain nombre de joueurs montrant des symptômes, a annoncé l'instance dans un communiqué. Il s'agit du 3e report d'un match cette saison en Angleterre après Newcastle-Aston Villa début décembre et Everton-Manchester City. Ici, en basketball, les Milwaukee Bucks ont établi un nouveau record NBA avec pas moins de 29 tirs à 3 points inscrits lors de leur large victoire contre le Heat de Miami 144-97, effaçant le précédent record détenu par les Houston Rockets face aux Phoenix Suns le 7 avril 2019. Dans les autres rencontres, les Knicks de New York ont enchaîné avec une nouvelle victoire face aux Cleveland Cavaliers 95-86, amené par un Julius Randle de gala, auteur d'un triple-double 28 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Les Chicago Bulls ont de leur côté remporté leur premier match de la saison face aux Washington Wizards, 115 à 107, malgré un nouveau triple-double de Russell Westbrook avec 21 points, 15 rebonds et 11 passes décisives, le troisième de la saison pour lui.
Merci Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie, à présent les dossiers du jour. Et on commence par le Burkina Faso. Le Burkina Faso, où le président Roch Marc Christian Kabore a été reconduit à la tête du pays pour un deuxième mandat de 5 ans. Beaucoup de défis se présentent à lui, notamment sur le plan de la sécurité et de la réconciliation nationale. Les Burkinabés attendent beaucoup de leur chef de l'État sur ces deux volets qui ont rendu difficile leur développement au cours de ces dernières années. De notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
C'est une nouvelle marque de confiance qui a été accordée à Roch Marc Kabore à la tête du Burkina Faso. Élu pour un second mandat, le président burkinabé suscite beaucoup d'espoir de la part de ses compatriotes. Ils n'ont pas manqué de nous le signifier avec des pistes de solutions.
Au niveau de la sécurité, il y a des questions qui doivent être vraiment abordées avec beaucoup de poignes. Je sais que le terrorisme est financé de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc il faut tarir ces souffles-là. Un travail diplomatique à l'étranger et à l'intérieur, dans les mines, les trafics de drogue, de cigarettes, tout ça. Essayer d'arrêter tout ça.
Emmanuel Lampandé. Le président Roch Marc Christian Kabore devrait, comme il l'a dit, s'atteler à résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux, notamment la question de l'insécurité, la question de la réconciliation qui est fondamentale. Je pense qu'il est grand temps que, effectivement, tous les fils et filles de ce pays se réconcilient pour le meilleur de ce pays. Parce que sans cela, je crois que le développement tant attendu sera un peu biaisé. Au-delà des paroles, qu'il y ait des actes.
Sommet ironique, il faut s'en dire que lorsque les Burkinabés seront réconciliés entre eux, on pourra regarder vers la même direction pour lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que il y a cette question d'inimitié entre certains Burkinabés que le terrorisme arrive à avoir un terreau favorable.
Je pense que le deuxième mandat du président Kabore, c'est le mandat de la confirmation. En 2020, le peuple a renouvelé sa confiance au président Roch Marc Christian Kabore. Ça veut dire qu'il y aura d'autres innovations, comme j'ai d'habitude de le dire, beaucoup de choses qui n'ont pas atteint les objectifs souhaités, compte tenu du fait de la sécurité, vont pouvoir certainement avoir gain de cause. Et pour ce qui concerne la sécurité, moi, je dirais que beaucoup de choses ont été faites pendant le premier mandat. Beaucoup de choses sont encore en train d'être faites.
Les espoirs sont légitimes, les défis sont énormes. Il reste au président burkinabé d'assurer à son peuple la paix et la concorde. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Tchad, le député Saleh Kebzabo, président de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, est dans le collimateur de la justice. Dans un courrier daté du 28 décembre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, informe le président de l'Assemblée nationale que le ministère public entend exercer des poursuites pénales à l'encontre du député Saleh Kebzabo. On lui reproche d'avoir tenu des propos incendiaires lors de son déplacement dans le sud du pays au sujet du regain des conflits entre éleveurs et agriculteurs. André Kodmajinga, correspondant de VO Afrique, fait le point.
En tournée politique au sud du Tchad le 22 décembre dernier, Saleh Kebzabo a demandé aux jeunes de son fief et sur toute l'étendue du territoire national de s'organiser pour se défendre en cas d'attaque des éleveurs armés, puisque très souvent, se souvient-il, le rapport de force n'est pas le même et le gouvernement ne fait rien pour protéger les cultivateurs. Des propos jugés incendiaires et donc constitutifs des délits d'atteinte à la paix et à la tranquillité publique, faits prévus et punis par le code pénal tchadien, respectueux des contraintes de l'état de droit, le ministère acteurs publics entend mettre en mouvement l'action publique contre lui. Saleh Kebzabo parle d'une cabale judiciaire pour l'écarter de la présidentielle.
Moi, j'ai demandé que les gens s'arment de sifflets, qu'ils cessent de boire le argot et qu'ils protègent leurs parents, les mains nues. Avec leur nombre, ils peuvent y arriver. Voilà ce que j'ai dit et voilà ce que je répète. Les Tchadiens ne doivent pas du tout se laisser amuser la galerie comme on est en train de le faire parce qu'on prépare l'élection présidentielle et qu'il faut éliminer les adversaires du président Idriss Déby Itno. Les agriculteurs doivent être protégés par la loi. Les éleveurs doivent être poursuivis par la loi.
Pour le député Ali Kolotu Chaimi, président du groupe parlementaire du MPS parti au pouvoir, un député a un mandat national et donc ne doit pas tenir des propos divisionnistes.
Je condamne fermement ces propos. Ça, je vous le dis honnêtement, ce n'est pas des propos qui doivent être tenus par un député en principe. Mais ce qui est de la lettre qui a été envoyée au président de l'Assemblée, nous attendons que la justice fasse son travail. Nous, on n'a pas peur d'un candidat et tous ces gens-là qui prétendent être des candidats à la présidentielle et qui dénoncent des mauvaises gestions ou autres, ce sont les anciens ministres du président Déby. Et aujourd'hui, ils vont montrer quoi? Kebzabo, devant Déby, il est battu. Il est battu KO même.
Les praticiens de droit estiment qu'il n'y a pas matière à poursuite et qu'un député est protégé par la loi. Docteur Sitak Yombatina Bénin, juriste et enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration.
La constitution actuelle, ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, interdit, on poursuit, n'est-ce pas, un député pour ses opinions, pour ses propos. Donc je pense que c'est une distraction. Même le préambule de la Constitution du Tchad demande, n'est-ce pas, aux Tchadiens même de se défendre au cas où le gouvernement ne serait pas en mesure, n'est-ce pas, de les défendre. Donc c'est du bon sens. Ça n'a même pas besoin d'être du droit. Moi, je viens de faire le Sud. Là, actuellement, je suis dans le Grand Wadaï. Je vous assure, c'est même pire encore que dans le Sud. Hein. Actuellement, les communautés ici sont complètement en chien de faïence et donc il suffit seulement d'un essentiel pour que ça s'éclate. Et donc, je pense, continuer à nier l'évidence et continuer surtout à faire la politique de l'autruche ainsi sud-est.
C'est pour la troisième fois consécutive dans l'histoire de la troisième législature en cours que la demande de lever de l'immunité parlementaire du député Saleh Kebzabo a été introduite par le gouvernement. Les deux premières demandes ont été sans succès. Reste à savoir si la troisième pourrait aboutir. André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition visant à apaiser l'environnement politique a été suspendu mardi. Après une semaine de pourparlers, les deux parties n'ont pas réussi à conclure un accord. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le journaliste du quotidien Notre Vie, Augustin Kouyou.
Les points d'accord et les points de désaccord avant d'apposer sa signature au bas du document final. Donc, je pense que le dialogue n'est pas rompu loin de là. C'est juste des questions de forme, puisqu'il y a vraiment beaucoup de points d'accord, notamment la libération des prisonniers, et voilà, la révision du cadre organique des élections, notamment le rééquilibrage de la commission électorale et puis voilà le découpage électoral à revoir, disons, avant les élections législatives. Donc, je pense que ça n'est pas rompu du tout et ça va reprendre, à mon sens, très rapidement.
Est-ce qu'ils ont fixé un deadline quelconque pour la fin des négociations?
Non, pas de deadline, parce que les négociations elles-mêmes, c'est le comité qui a été mis en place, c'est vraiment un cadre permanent. En tout cas, c'est ce que le Premier ministre a souhaité, un cadre permanent de dialogue, même sur les points où il n'y a pas eu d'accord, où il n'y a pas eu de recommandations, ces points vont faire l'objet de discussions ultérieures sans préciser de date. Mais dans tous les cas, et le président Déby qui est pour l'instant, en tout cas sur la place, le représentant officiel de l'opposition, je crois, maintient un dialogue direct avec le président Alassane Ouattara. Bon, donc voilà la situation telle qu'elle se présente actuellement.
Est-ce que la question sur l'avenue de Gbagbo est levée?
Ce qui reste pour le retour du président Gbagbo, c'est des questions de détails organisationnels, de calendrier. Lui-même, étant en rapport direct avec le Premier ministre, en tout cas c'est ce qu'il a fait dire par son avocat, c'est-à-dire il a demandé à ses représentants d'aller négocier avec le Premier ministre. Et je pense que tout cela est pris en compte et lui-même, selon les rapports non signés par l'opposition, ce rapport donc dit que le président Gbagbo doit être intégré au dialogue avec M. Ouattara. Donc je pense que ce n'est qu'une question de jours, de semaines, mais dans tous les cas, ayant reçu ces documents de voyage, notamment le passeport guinéen et le passeport diplomatique, rien ne devrait s'opposer à son retour dans son pays.
Augustin Couillot, journaliste du quotidien Notre Vie.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous faisons une rétrospective des grands sujets qui ont dominé l'actualité africaine durant l'année 2020. Nous revisiterons la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les activités économiques, sportives et culturelles. L'actualité politique marquée par le débat sur le troisième mandat dans certains pays, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une série d'élections dans plusieurs pays du continent. Sans oublier le renversement de la majorité parlementaire en RDC. Dites-nous ce qui vous a marqué cette année. Rendez-vous ce jeudi 31 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est la fin de ce journal. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. Présentation John Lydon. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis prennent des mesures pour empêcher le régime cubain d'exploiter financièrement son peuple et d'utiliser les fonds pour soutenir le gouvernement illégitime du Vénézuélien Nicolas Maduro. Le gouvernement du pays utilise deux méthodes particulièrement hideuses pour mettre la main sur les devises fortes. Elle détourne des envois des fonds, des cadeaux monétaires des parents et d'amis vivant à l'extérieur de Cuba à ses propres citoyens. Cuba est le seul pays de l'hémisphère où l'armée s'arroge une part des fonds envoyés, a déclaré le secrétaire adjoint par intérim aux affaires de l'hémisphère occidental, Michael Kozak, lors d'une séance d'information spéciale récemment tenue sur les préoccupations en matière de droits de l'homme à Cuba. L'armée cubaine saisit des devises à ses propres fins, les utilisant pour financer son ingérence au Venezuela et soutenir ses propres entreprises défaillantes. Ils prennent également leur part et forcent les Cubains à utiliser ce qui reste des fonds d'envoi reçus pour n'acheter des marchandises qu'à des prix nettement élevés dans les magasins contrôlés par le régime. Pour mettre fin à cette pratique, les États-Unis ont empêché les forces armées cubaines de manipuler le traitement des envois de fonds. Dans le même temps, les États-Unis permettent les envois de fonds par des voies privées et civiles. Les États-Unis sensibilisent également la communauté internationale à la deuxième méthode utilisée par le gouvernement Castro pour obtenir des devises fortes par le biais d'abus de professionnels de la santé participant aux missions médicales cubaines à l'étranger. Il s'agit d'une entreprise à but lucratif qui est la première source des revenus pour le régime Castro, a déclaré l'ambassadeur Kozak. Le régime prive son propre personnel médical de jusqu'à 90% de leur salaire, salaire que les médecins gagnent mais ne voient jamais. Les États-Unis s'efforcent de protéger les médecins tout en coupant ses recettes au régime. Les pays qui accueillent des travailleurs cubains devraient déposer directement leurs salaires des professionnels dans leur propre compte bancaire personnel au lieu de remplir les coffres du régime. Et certains pays ont démontré que cela peut être fait malgré la résistance du régime, a déclaré le secrétaire adjoint par intérim Kozak. Nous nous sommes concentrés sur le fait de priver le régime Castro des ressources qu'il utilise pour financer sa répression à Cuba et son ingérence au Venezuela. Nous visons à renforcer la société civile et le secteur privé cubain, mais pas le régime répressif cubain.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.